A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
D'une certaine manière, ce que prévoyait Keynes dans les années 40, ben, il y a des signes qui montrent que ça peut se produire.
La question qui se pose maintenant qu'on est en train de voir l'économie redémarrer, c'est celle des outils à mettre en place en sortie de crise.
Tonight, I'd like to talk to you about our way forward.
Donc il va y avoir moins d'abricots. Par contre, tout le monde a envie de manger des abricots.
Salut, c'est Xavier Yvon, nous sommes le lundi 19 juillet 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Depuis le début de la crise sanitaire, rapidement devenue économique, on ne parle que de lui, enfin presque, enfin en tout cas dans les débats sur les leviers de la reprise.
Pourquoi est-ce que je deviens keynésien ? Parce qu'on va être dans une situation de chômage keynésien.
Défendre la remontée des bas salaires, il a raison, c'est une politique keynésienne. Un plan d'investissement de 1000 milliards de dollars, c'est ce qu'il voulait faire dans les infrastructures. C'est une politique keynésienne, ça aurait été utile.
Il s'appuie sur Keynes, l'économiste britannique de l'entre-deux-guerres.
But economics itself has been forever changed because of the ideas of John Maynard Keynes.
John Maynard Keynes, célèbre économiste et essayiste britannique du XXe siècle, c'est à lui et à ses théories que l'on se raccroche souvent au moment des bouleversements économiques. C'est aussi un personnage haut en couleur dont la vie se raconte comme un roman, de son amitié avec Virginia Woolf à ses liens avec des espions. Tout ça, vous pouvez le lire tout l'été dans l'Express, dans une série consacrée à l'extravagant Mr. Keynes. Mais dans cet épisode, on va parler d'économie. Et je vous promets, ce sera tout aussi passionnant. On va se demander si l'onde de choc mondiale suscitée par le virus et les plans de relance parfois colossaux annoncés dans certains pays suffisent vraiment à dire que l'on vit un moment keynésien aujourd'hui en 2021. Et je vous spoil, c'est bien plus subtil que ça. Pour passer la théorie keynésienne à la loupe, j'accueille aujourd'hui Jean-Marc Sirouen. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste et auteur de plusieurs livres sur la vie de John Maynard Keynes, dont on parle beaucoup depuis le début de la pandémie. Avant tout, j'ai envie de vous demander, une crise mondiale due à une pandémie, est-ce que c'est exceptionnel dans l'histoire de l'économie ?
C'est assez exceptionnel. La dernière grande pandémie que l'on a connue lors de la guerre de 1918, l'épidémie de grippe espagnole, alors on était tellement accaparés par les problèmes économiques posés par la guerre que finalement, la grippe espagnole n'a pas eu d'influence claire sur les politiques économiques qui ont été menées. Et à ma connaissance, dans les pandémies antérieures, il n'y avait pas eu non plus de conséquences économiques et de politiques économiques, en tout cas pas de théorisation des politiques économiques qui devaient être menées.
Et donc c'est une situation inédite et dans ce genre de situation, eh bien, on cherche des références à des modèles économiques existants.
Il faut injecter des ressources dans l'économie en empruntant. Il n'y a que les gouvernements qui peuvent le faire, d'emprunter massivement et de stimuler l'économie autant que possible. C'est ce que font les États-Unis avec les 2 trillions dont on a parlé. C'est ce qui est fait en ce moment en Europe, comme on le discutait. Donc c'est vraiment le moment keynésien par excellence.
Un moment keynésien, c'est ce dont nous parle une économiste et pas n'importe laquelle, le prix Nobel Esther Duflo. Jean-Marc Sirouen, à quoi on pense quand on évoque un moment keynésien ?
Bien, on peut penser à 2 choses. On peut penser à la situation dans laquelle on était lorsque Keynes écrit la théorie générale, donc en 1936, c'est-à-dire la crise de 1929 suite à un krach financier, donc une insuffisance de la demande et un chômage massif qui atteint 25% aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Maintenant, on peut penser autrement ce grand moment keynésien. On peut considérer qu'il y a certes une crise qui devient économique du fait, en l'occurrence, de la pandémie ou d'autres choses, et retrouver des instruments keynésiens, notamment le déficit budgétaire, pour s'attaquer à cette crise. Dans ce cas-là, le moment keynésien n'est plus basé sur les faits, sur la nature de la crise économique, mais plutôt sur les instruments que l'on doit mener pour surmonter cette crise économique, ce ralentissement économique.
Quand eux pensent à un grand moment keynésien, ces économistes qui comparent ce qu'on vit là avec la crise de 1929, qu'est-ce que vous pensez de cette comparaison, de cette manière de voir les choses ?
Je ne la comprends pas, parce que la situation est tout à fait différente. On a une crise qui ne doit rien à une défaillance du système économique. D'une certaine manière, c'est une crise qui est voulue, qui a été choisie pour de bonnes raisons, hein, c'est-à-dire un arbitrage qui a été fait entre la vie des gens et l'économie.
Un mot d'ordre plus que jamais demeure, rester chez soi, alors que le nombre de victimes est désormais en France de 450 personnes.
Ce n'est pas dû à, ni à une crise financière, ni à une crise économique. Par ailleurs, la situation est très différente. Lorsque la pandémie survient, pratiquement toutes les économies voient leur chômage baisser. On est très loin du chômage massif. Hein. Aux États-Unis, on est autour de 3%.
Ouais, quasiment le plein emploi.
C'est loin des 25%. C'est même considéré comme étant le plein emploi, avec, dans certains secteurs, des difficultés de recrutement. Une insuffisance de la demande qui n'est absolument pas évidente. Hein. La demande est plutôt forte. On est plutôt dans une phase de croissance. Alors, pas une croissance considérable, mais en tout cas, une croissance économique appréciable. Donc, on est dans une situation totalement différente que celle qu'avait eu à traiter Keynes dans les années 30.
Et pourquoi les économistes ont ce raisonnement, font cette comparaison, à votre avis ?
Ben parce qu'ils se sont polarisés sur le ralentissement économique, même si le ralentissement économique a des causes totalement différentes de celles des années 30. Donc un peu un réflexe pavlovien, donc ralentissement économique, quand il va y avoir beaucoup de chômage, s'il y a beaucoup de chômage, on va être dans une situation keynésienne. Donc dans quelque sorte, ils postulent le moment keynésien avant que le moment keynésien survienne, et un moment keynésien qui, encore une fois, a été en quelque sorte voulu à la suite d'un arbitrage qui a été fait pour sauver le maximum de vies, ce qui est évidemment un arbitrage auquel on ne peut qu'adhérer, mais qui, c'est peut-être la chose la plus nouvelle qui s'est passée. C'est alors qu'on croyait que dans le système économique mondialisé, néolibéral, la vie des gens n'avait pas très grande importance, eh bien là, l'arbitrage a été fait en faveur de la vie des gens, quitte à sacrifier un peu, et même beaucoup, l'économie.
Alors, dans ce podcast, on va parler beaucoup de demande et de capacité de production. Ce sont deux indicateurs capitaux dans l'économie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Je vais vous prendre un exemple. Ce sera peut-être le plus simple. Il y a eu un gel au printemps. Donc, la production de fruits français, abricots, etc., a chuté terriblement. Donc, il va y avoir moins d'abricots. Par contre, tout le monde a envie de manger des abricots. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, c'est que les producteurs d'abricots qui ont encore quelques abricots à vendre vont se dire, eh bien, les gens ont tellement envie d'abricots qu'ils vont peut-être accepter un prix plus élevé. Alors du coup, ils vont moins en demander. Ce qui tombe bien, puisque j'en ai pas beaucoup à offrir. Et là, on aura donc effectivement, du fait de cette insuffisante de production d'abricots, une augmentation du prix des abricots.
On en revient à Keynes, que vous connaissez bien, vous avez beaucoup écrit sur lui, et vous dites que c'était plutôt un pragmatique.
Tout à fait, c'était un pragmatique. Keynes, il a dit dans une de ses œuvres du début des années 30 que l'économiste devait être un peu comme le dentiste. Hein. Il ne voulait pas dire médecin, parce que lui-même était très malade et n'était pas forcément très heureux avec les médecins. Il avait choisi les dentistes. Donc, on regarde quel est le mal, et ensuite, on adapte la solution à ce mal. Et on a beaucoup reproché à Keynes de changer souvent d'avis. À cela, il répondait, on dit qu'il a répondu, que lorsque les faits changent, eh bien, je change d'idée. Est-ce que vous ne faites pas pareil vous-même ? Ce qui illustre bien le caractère très, très pragmatique de Keynes. On fait le diagnostic sur la crise et ensuite, on détermine les bons instruments.
Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait dans les années 40 avec la Seconde Guerre mondiale. Il a fait développer une théorie différente que celle qu'il a développée pour la crise de 1929.
C'est non seulement une théorie différente, mais c'est une théorie qui est totalement opposée à celle qu'il développait 4 ans plus tôt même, dans la théorie générale. Parce que, évidemment, la situation a changé. Il le dit lui-même au début de son essai « Comment financer la guerre ». Maintenant, il faut bien qu'on s'aperçoive qu'on n'est plus dans une situation où on produit trop pour une demande insuffisante, mais on est dans la situation exactement inverse, on ne produit plus assez pour une demande trop importante. notamment dû à la guerre. Donc on produit moins parce que les capacités de production sont en grande partie mobilisées par la guerre, donc on produit moins pour la consommation.
Et on produit moins aussi parce qu'il y a moins de main-d'œuvre.
Alors il y a moins de main-d'œuvre, donc malgré les heures supplémentaires, le travail des femmes, etc., donc il y a moins de main-d'œuvre, puis qu'une partie de cette main-d'œuvre est mobilisée. Donc il n'y a plus de chômage dans les années 40, donc exactement la situation inverse de celle des années 30. Et d'ailleurs, ce que propose Keynes, c'est un peu l'inverse également de ce qu'il proposait dans la théorie générale, c'est-à-dire plutôt diminuer la demande pour éviter le rationnement. Donc à l'époque, pour traiter ce problème, la plupart des pays, dont la Grande-Bretagne, choisissent le rationnement, donc les fameux tickets de rationnement du fait d'une demande trop forte par rapport à la production. Keynes défendait une autre idée qui était plutôt d'agir sur le revenu pour que les gens consomment moins, mais conservent la liberté de choisir ce qu'ils achètent. Il considérait, il écrit dans « Comment financer la guerre », que le rationnement, c'était en fait une forme de bolchevisme.
Et si on parle de ce moment-là, cet autre moment keynésien des années 40 de la Seconde Guerre mondiale, c'est parce que, pour vous, en fait, ça ressemble à la crise qu'on a vécue au moment des confinements.
Ça ressemble plus, oui. Je ne dis pas que c'est totalement la même chose. Hein. Mais oui, pourquoi ? Eh bien, parce que le confinement, c'est une baisse de la production. Donc, alors, ce n'est pas la guerre qui provoque cette baisse de la production pour la consommation, c'est le confinement. Et en même temps, les revenus et donc la demande potentielle ne diminue pas, puisque on continue à travailler. Et surtout, donc, l'État indemnise et maintient donc un certain revenu.
Et on est arrivé à ce chiffre, 220 000 entreprises concernées, 2,2 millions de salariés qui ont basculé en chômage partiel.
Alors malgré tout, il y a quand même une forme de rationnement, qui est par les tickets de rationnement, et ça c'est peut-être la particularité de la crise de la Covid, c'est qu'on a à la fois un rationnement de la production du fait du confinement, mais on a aussi un rationnement de la demande.
Comment on a un rationnement de la demande ?
Si vous ne pouvez pas aller au restaurant, si vous ne pouvez pas aller au cinéma, si vous ne pouvez pas voyager, plus un certain nombre de décisions d'achat qui peuvent être retardées, vous avez une demande globale qui diminue. Keynes raisonnait en termes globaux, il ne raisonnait pas beaucoup en termes sectoriels. Puis les gens qui sont inquiets vont suspendre leurs décisions de consommation pour des biens qu'ils pourraient éventuellement acheter, comme les automobiles ou le logement. Donc ils vont le suspendre, ils vont un petit peu attendre. Donc jusqu'à maintenant, ça n'a pas posé d'énormes problèmes parce que les deux se sont à peu près équilibrés. À partir du moment où il y a une reprise, et la reprise qui a commencé en Chine, eh bien, ce qui était un peu prévisible commence à apparaître. On voit des signes de plus importants de pénurie dans un certain nombre de secteurs, tirés par la Chine, tirés par la demande intérieure, enfin un peu partout.
Notamment dans les matières premières.
Notamment, effectivement, dans les matières premières, dans les semi-conducteurs. Et d'une certaine manière, ce que prévoyait Keynes dans les années 40, il y a des signes qui montrent que ça peut se produire. Effectivement, une forme d'inflation qui survient. Alors, on continue à nous dire que c'est provisoire, que c'est sectoriel, que c'est localisé. On en a pour 1 ou 2 ans et puis après, ça sera fini.
On va juste rappeler très brièvement, l'inflation, c'est quoi ?
C'est la hausse du niveau général des prix, sans que chacun puisse très bien dire ce que c'est le niveau général des prix. Ça veut dire que si c'est juste le prix de l'essence qui augmente, ce n'est pas de l'inflation. Mais si vous avez presque tous les produits, le prix des produits ou des biens qui augmente, là, ça commence à devenir de l'inflation.
Et cette inflation, Jean-Marc Sirouen, le risque principal, c'est donc qu'elle s'installe.
Alors, le risque, effectivement, c'est qu'elle s'installe. Et là, on ne sait pas trop pourquoi, quoi qu'en disent les économistes, pourquoi l'inflation a disparu dans les années 80-90. Je crains qu'on ne sache pas trop pourquoi elle pourrait revenir. Dire que l'inflation a disparu, c'est le genre de choses que l'on dit. On disait aussi que les épidémies avaient disparu, que les guerres avaient disparu, etc. Bon, on sait que malheureusement, ça peut revenir. Et une des raisons pour lesquelles elles reviennent, c'est les conditions permissives de la monnaie. Et ce qui m'inquiète aussi, c'est donc la spéculation qui se porte sur le prix des matières premières.
Quelles seraient les conséquences d'une inflation qui s'installe ?
Une inflation de 4-5%, on a vécu avec, on n'en est pas mort. Mais c'est un problème social aussi. L'inflation tend à accroître la pauvreté. Elle pèse davantage sur les bas revenus que sur les hauts revenus. Donc ça va toucher davantage les classes moyennes et les classes à revenus inférieurs dans une situation où les tensions sociales restent quand même très très fortes.
Avant qu'on s'intéresse aux politiques économiques à mettre en place, notamment pour limiter l'inflation, Jean-Marc Sirouen, qu'aurait pensé Keynes des décisions prises par les États au plus fort de la crise ?
Je pense qu'elles ont été bonnes. C'était des raisons pas uniquement basées sur la rationalité économique, mais aussi sur un certain consensus politique et social, hein, celui que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire on sacrifie un peu l'économie pour pas sacrifier les hommes. Je pense que ce qui a été très bien dans certains pays, c'est qu'on a d'abord privilégié le maintien des capacités de production, ce qui permettra en cas de reprise d'augmenter plus rapidement la production, et donc de limiter d'une certaine manière le risque d'inflation et de combler plus facilement le décalage qu'il pourrait y avoir entre l'offre et la demande. Éviter les licenciements, notamment dans un pays comme la France, où on sait que c'est toujours un peu compliqué à la fois d'embaucher et de débaucher, je pense que ça a été une très bonne chose. Je pense qu'il fallait faire ça, préserver au maximum les moyens de production, la capacité de production, pour qu'on puisse répondre le plus rapidement possible. Je ne vais pas faire parler Keynes sur une situation particulière, mais je pense que ça a été plutôt une bonne gestion de la crise de ce point de vue-là. Après, on verra.
Jean-Marc Sirouen, la question qui se pose maintenant qu'on est en train de voir l'économie redémarrer, c'est celle des outils à mettre en place en sortie de crise. On a compris que ceux qui avaient été préconisés par Keynes dans les années 30 n'étaient pas adaptés, selon vous. Alors, que faut-il faire ?
Les outils, pourquoi ? C'est la première question que je poserai. Parce que lorsqu'on regarde les plans de relance, finalement, les plans de relance qui n'ont pratiquement pas démarré encore, hein, ça vise à financer des infrastructures, c'est-à-dire compenser ce qui n'a pas été fait depuis 20 ans et préparer la transition écologique. Ce ne sont pas des plans de relance conjoncturels, ils le sont en partie, mais ce sont plutôt des plans de relance structurels, agir sur les structures de l'économie. Je dirais que Keynes, ce n'était pas tellement son truc. Les structures, le Keynes auquel on pense, c'était plutôt sur la conjoncture. Donc, c'est très difficile de dire ce qu'il faut faire. Il y a, dans le moment keynésien, une sorte de rédemption qui est demandée. En 2008, on était dans un moment keynésien. Et on a arrêté très vite ce moment keynésien, en tout cas ralenti très vite ce moment keynésien, en abandonnant les plans de relance peut-être trop vite. Il y a un consensus aujourd'hui pour dire qu'on est retourné à une certaine austérité relative, hein, un peu trop vite. Et pour se faire pardonner cela, eh bien, il y a un peu cette idée sous-jacente qui consiste à dire eh bien, on ne va pas refaire la même chose, mais comme effectivement ça peut créer des tensions économiques, on va le justifier plutôt par l'écologie, par des infrastructures défaillantes. Mais là, on est dans la très grande ambiguïté du discours actuel où on ne sait plus très bien à quoi sert le plan de relance.
Justement, à propos des plans de relance, il y en a qui sont massifs, hein, je pense à celui de Joe Biden, 1900 milliards de dollars. Est-ce qu'ils peuvent alimenter l'inflation ? Est-ce qu'il y a un risque sur l'inflation ?
Ah oui, le plan Biden prend la succession du plan Trump, qui était déjà un plan de relance particulièrement massif. Donc ça se rajoute à ça.
Tonight, I'd like to talk to you about our way forward, a two-step plan of rescue and recovery.
Dans une économie, alors, qui certes a vu son chômage augmenter, plus qu'en France, parce que le système de protection sociale est moins important aux États-Unis. Donc certes, le chômage a beaucoup augmenté pendant la crise de la Covid, mais en même temps, ce chômage diminue très très rapidement et on risque de revenir à la situation d'avant Covid assez vite, c'est-à-dire avec plutôt des tensions sur le marché du travail qu'autre chose. Donc un plan de relance lorsque l'économie, certes, n'est pas encore en plein emploi, mais enfin, n'est pas très, très loin du plein emploi, c'est évidemment effectivement très, 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 très dangereux. Donc, il y a un risque, effectivement, d'inflation qui n'inquiète pas beaucoup le président du Federal Reserve System, la Banque centrale américaine, mais qui inquiète d'autres économistes.
Mais donc, du coup, pour diminuer ce risque d'inflation, est-ce qu'il ne faudrait pas des plans de relance un peu moins ambitieux, un peu moins massifs ?
Je pense qu'il faudrait faire attention, effectivement, à ne pas se précipiter dans des plans de relance en se disant « c'est formidable, tout le monde va être content ». On a de la monnaie hélicoptère, on va distribuer du pouvoir d'achat. Je pense qu'il y a une très grande imprudence et un très grand déni dans l'état d'esprit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de relance.
C'est populaire, ça.
Qu'il ne faut pas soutenir. Oui, c'est assez populaire, mais ça peut se retourner très, très vite. Et il faut faire très attention, effectivement, aujourd'hui. Alors, on ne peut pas demander aujourd'hui aux gens de ne pas partir en vacances et d'épargner. Surtout pas, évidemment. Parce qu'on a la capacité de répondre à ce besoin en ce qui concerne ce secteur-là. Mais néanmoins, il faut quand même faire très attention à ne pas en rajouter en politique de relance.
Mais est-ce que c'est entendable pour la population de dire attention, ne dépensez pas trop, on vous donne un peu d'argent, mais ne le dépensez pas parce que sinon il y aura de l'inflation?
Non, non, il ne faut pas le dire. Politiquement, ça ne serait pas audible. Et en plus, on n'a pas suffisamment. On n'est sûr de rien aujourd'hui. On ne sait pas comment les gens vont dépenser. Peut-être qu'ils vont eux-mêmes épargner parce qu'ils ne sont pas très sûrs de l'avenir. Si demain on a une quatrième vague, on ne sait pas non plus ce qui va se passer. Donc, je dis qu'il faut faire attention, être très attentif, regarder tous les indicateurs. Je ne dis pas qu'il faut dire aux gens de ne pas partir en vacances et d'économiser leur argent et d'attendre avant d'aller au cinéma ou au restaurant.
On va pas faire parler les morts, hein. Vous disiez, on va pas faire parler Keynes, mais quand même, on l'a dit au début, c'est une situation inédite. À votre avis, est-ce que ça nous manque, ce qu'il aurait proposé?
En fait, ce qu'il a proposé n'a jamais été vraiment appliqué de son temps, hein. Que ce soit la théorie générale, hein, finalement, il n'a pas été tellement suivi sur la théorie générale, et sur le financement de la guerre, non, il n'a pas été non plus suivi. C'est après qu'on s'est dit que l'idée était bonne, et qu'il faudrait l'appliquer, mais là, il était déjà mort, et qu'il faudrait les appliquer, notamment dans les années 50 et 60 et 2008. Hein, la plus belle redécouverte de Keynes, c'était après la crise de 2008. Donc, dire qu'il nous manque, s'il n'est pas écouté, ça n'aurait pas grand sens. Je reste keynésien dans la définition pragmatique du keynésianisme, c'est-à-dire la capacité, effectivement, à lier les faits et les solutions, quitte à remettre en cause un certain nombre d'idées reçues. Je crois qu'aujourd'hui, on vit, je l'ai évoqué implicitement à plusieurs reprises, on vit sur un certain nombre d'idées, d'acquis, de déni aussi, de références. Je ne dis pas qu'il faut les éliminer, mais il faut les remettre en cause. Hein. Et ce n'est certainement pas suffisamment fait.
Remettre en cause nos acquis et nos références et chercher des solutions en fonction d'une situation précise. Merci Jean-Marc Sirouen pour cette plongée dans la subtilité de la pensée keynésienne. C'était passionnant. Je rappelle que vous signez une série d'articles sur l'extravagante vie personnelle de John Maynard Keynes dans l'Express cet été, à retrouver chaque semaine en kiosque. Comme d'habitude, je vous invite à nous mettre des étoiles sur vos plateformes d'écoute si ça vous a plu et à vous abonner pour ne rater aucun épisode. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas non plus à nous écrire. L'adresse, c'est toujours la même, laloupe@l'express.fr. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.